Radio Okapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molima.
Énième attaque des ADF à Luna Sambuku, c'est dans le territoire d'Irumu en Ituri. C'est au moins 14 personnes qui ont péri et des maisons incendiées. Des organisations de la société civile et les notables locaux appellent les autorités à lancer enfin des opérations conjointes FRDC-UPDF dans cette région. La RDC, mauvais élève sur l'indice de perception de la corruption pour l'année 2021, elle a obtenu 19 points sur 100. D'après le président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, Likoko, Ernest Pararo, ce classement a des conséquences sur plusieurs secteurs, notamment celui des climats des affaires. Enfin, notre invité dans cette édition du journal est Rachidi Malundama du mouvement citoyen Filimbi. Il s'exprime sur les rapports que cette structure et l'Observatoire de la dépense publique ODEP ont récemment publiés. Il porte sur la gestion des fonds affectés par l'État à l'hôpital général de référence, ex-Mamayemo. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Mais avant tout, cette information qui nous est parvenue, un accident de circulation a eu lieu hier mardi dans l'après-midi sur la nationale numéro 1 à la hauteur du village de Maison, à plus ou moins 11 km du chef-lieu du territoire de Songololo. Le bilan fait état de 7 morts, des blessés graves et des dégâts matériels importants. L'administrateur du territoire de Songololo, Daniel Eloko, qui confirme les faits, indique qu'il s'agit d'un camion poids lourd de l'entreprise Énergie en partance pour Matadi qui est entré en collision avec une voiture de marque Mitsubishi Lancer provenant du marché transfrontalier de Lufu à destination de Mbanzangungu. Les causes de ce drame, selon Daniel Eloko, seraient le mauvais dépassement et l'excès de vitesse dans un virage. Les 7 corps sont tous gardés à la morgue de l'hôpital Imé de Kimpese. En Ituri, 14 personnes ont été tuées lundi dernier par des présumés rebelles des ADF à Luna Sambuku dans les territoires d'Irumu. Selon des sources locales, ces miliciens ont incendié des maisons et emporté des biens de la population. Face à cette énième attaque armée contre des civils sur l'axe Komanda Luna, des organisations de la société civile et notables locaux appellent les autorités à lancer enfin des opérations militaires conjointes FRDC armée ougandaise UPDF dans cette région. C'est là pour mettre fin aux exactions des assaillants contre les civils. Marcel Kizabiamungu.
Ces présumés rebelles de ZADEF en provenance du Nord Kivu ont traversé la rivière Sambuku à Ituri il y a 2 semaines pour se diriger vers les localités de Masesele, Mungali et Pontu. Selon des sources sécuritaires, une vingtaine d'entre eux ont investi Luna Sambuku pendant plusieurs heures en tirant des coups d'effet. Dans cette confusion, 14 personnes sont abattues, affirment plusieurs sources concordantes. C'est mardi, des organisations de la société civile et des notables de Wallace et Vonkutu et Basili parlent ne décolorent pas face à ce qu'ils qualifient de tuerie de trop. Selon eux, cette situation est due à l'absence des opérations conjointes entre le FRDC et l'armée ougandaise contre ces rebelles qui errent dans cette région, mais sans être inquiétés. Contactez les commandants de FRDC sur l'axe Komanda Luna. Le général Mugisa précise que cette zone où cette attaque a eu lieu est du ressort de l'opération Sokola 1 de Beni. Nous n'avons pas réussi à avoir les coordonnateurs des opérations conjointes FRDC-UPDF actuellement en mission en Ouganda. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
On revient ici à Kinshasa. Le patron de la police nationale congolaise dresse un tableau sombre du travail de certains éléments de la police nationale congolaise, surtout ceux ayant dans leurs attributions la réglementation de la circulation routière. Le lieutenant-général Dieudonné Amouli Baïgoua l'a dit ce mardi au cours d'une parade organisée au stade des Martyrs ici à Kinshasa. Il a aussi fustigé la mauvaise pratique de certains officiers de la police nationale congolaise qui introduisent certains jeunes sans formation dans la police et leur donnent des armes. Ce sont ces faux policiers qui sont à la base de beaucoup d'abus au sein de la police nationale congolaise. D'autres détails avec vous, Blaise Chindani Kambala.
Le patron de la police nationale congolaise ainsi que ses hommes ont bravé la pluie pour tenir sa causerie morale. Toutes les unités de la PNC de Kinshasa suivaient religieusement sous une forte pluie les instructions de leur commandant en chef qui visiblement n'était pas fier de leur comportement.
Nous revenons encore une fois avec les pratiques honteuses des PCR. Ta mission est de réglementer la circulation. Dans des grandes villes comme Kinshasa, nous avons les phénomènes embouteillages. Mais la plupart de ces embouteillages sont provoqués par nous-mêmes, éléments de la police. Au lieu de veiller à la fluidité des véhicules qui doivent circuler, mais toi tu reviens à des mauvaises habitudes à chercher à rançonner les conducteurs. On peut même te remettre un morceau de papier hygiénique sans regarder, tu enfonces dans ta poche.
Concernant les altercations enregistrées ces derniers temps entre les éléments de la PNC commis à la garde de certaines personnalités et les FARDC, le général Amouli a rappelé à ses hommes qu'ils devraient s'entendre avec leurs collègues de l'armée puisqu'ils ont tous la même mission. Général Amouli.
Quand on est dans la même mission, on est appelé à s'entendre, à travailler la main dans la main, en toute collaboration.
La causerie morale s'est terminée par un grand défilé de toutes les unités de la PNC.
Parlant toujours de la police, au Kassai Oriental, le directeur général des écoles et formations demande aux parents d'envoyer les enfants bien éduqués au sein de la police pour permettre à la RDC d'être dotée d'une police de qualité. Le général-major Célestin Kanyama l'a dit lundi dernier après le lancement de la formation sur les lignes directrices des premiers secours basiques, suivi d'une causerie morale à l'intention de près de 200 agents de police du Kassai venus en formation à l'école de police à Kipuka. On écoute le général-major Célestin Kanyama.
Nous demandons à la population de continuer à faire confiance à la police, mais en envoyant les meilleurs de leurs enfants pour qu'ils soient formés et qu'ils participent à la sécurité de notre pays. C'est très important. Il ne faut pas que les gens se plaignent qu'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Dans ta famille, tu as combien de policiers que tu as? Puisqu'il faut envoyer les meilleurs de tes enfants, les docteurs, des licenciés, des gradués, des diplômés qui prennent part à la formation de la police. Pour que tu sois sûr qu'au sein de la police, j'ai mes enfants qui sont là et qui ont un bon comportement. Mais il ne faut pas nous amener vos voyous, qui les bombés là, les bombés vous les amenez à la police, les fumeurs du champ, ce sont ceux-là que vous voyez en cours de route en train de danser avec une arme à main, et ils se disputent des fois là avec les chauffeurs, avec les montagnes. Ce sont des voyous que vous avez envoyés au sein de la police. Mais les meilleurs des policiers, vous ne les verrez jamais faire ça.
L'ONG Transparency International a publié ce mardi l'indice de perception de la corruption pour l'année 2021. Sur 180 pays cotés, la RDC a obtenu 19 points sur 100. Transparency International fait savoir que 2 ans après les débuts de la pandémie dévastatrice de la COVID-19, l'indice de perception de la corruption 2021 montre que la situation dans ces domaines a stagné dans le monde entier. Malgré les engagements sur papier, 131 pays n'ont pas fait de progrès significatifs dans la lutte contre la corruption au cours de la dernière décennie. Et cette année, 27 pays se situent à des scores historiquement bas dans l'indice. Comment comprendre ce score de la RDC? Est-ce une amélioration ou une régression? Ernest Pararo, président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO, nous explique au micro de Daniel Tambizoni.
Effectivement, la RDC a obtenu 19 points. Il n'est pas 19e place, mais il a obtenu 19 points sur 100. Et cela signifie effectivement que la RDC est parmi les 10 ou les 20 pays les plus corrompus, et ce qui donne une image négative au pays. Ce classement, effectivement, a des conséquences sur la démocratie. Ce classement a des conséquences sur le respect des droits de l'homme. Ce classement a des conséquences même sur le climat des affaires ou les investissements étrangers en RDC. Je pense que effectivement, ce classement pourra permettre aux dirigeants, étant donné que aujourd'hui nous constatons que le président de la République est en train de se battre pour lutter contre la corruption, mais nous constatons effectivement que le chef de l'État, il est seul. Il est seul face à toute une classe politique corrompue qui ne parvient même pas à l'aider.
Alors, on parle justice dans cette édition du journal et nous poursuivons notre série de reportages sur la carence ou l'insuffisance des magistrats à travers le pays. Sur un peu plus de 3000 magistrats recensés en RDC, 10%, soit près de 300, sont dans la capitale Kinshasa. De plus, plusieurs magistrats affectés en milieu rural refusent d'y aller et préfèrent rester dans les milieux urbains. Dans ses reportages de Jeff Ngoyi, il revient sur quelques raisons de refus de nombreux magistrats de rejoindre leur poste dans les milieux ruraux.
Les syndicats des magistrats ont toujours dénoncé l'absence d'un plan de modernisation de la magistrature, manque de logements et infrastructures judiciaires adéquates. À cela s'ajoute le manque de bibliothèques et de meilleures conditions de travail dans les milieux reculés. De plus, les magistrats évoquent le manque de frais d'installation lorsqu'on est affecté en milieu rural, sans la prime de brousse et la prise en charge lorsqu'un magistrat tombe malade. À cela s'ajoute la corruption et le clientélisme. Tout cela décourage certains magistrats qui choisissent de travailler en milieu urbain où ils ont parfois des dossiers juteux à traiter. N'a-t-on pas entendu des jeunes magistrats de la tolérance zéro recrutés en 2010 chuchoter après le test des recrutements que leur priorité serait de s'acheter de l'Égypte? On est parfois surpris de retrouver certains bureaux sans chaises ni papiers, des juridictions qui manquent de salles d'audience organisées en chambres foraines dans des conditions précaires, sous des bâches, sous un arbre comme à Moncoto dans le Grand Équateur où le magistrat manque même l'argent des taximotos. Pourtant, plusieurs résolutions découlant des forums et ateliers de formation états généraux de la justice ayant élaboré une feuille de route et une politique de la réforme de la justice 2017-2026 sont gardées dans les tiroirs sans application. Place prochainement aux analyses et solutions à préconiser.
C'est hier mardi 25 janvier que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a ouvert des états généraux de la communication et médias sous le thème « Médias congolais, quelle perspective à l'heure du numérique face aux défis du développement durable ?» Le chef de l'État a rappelé dans son discours que les médias ont un rôle indispensable à jouer pour le développement d'un pays et que le nouveau narratif qui doit être mis en place ne faudra rien sans une presse responsable. D'autres détails avec vous, Jean-Francis Mouya.
Dans son adresse, le chef de l'État a invité en outre les journalistes et les professionnels des médias à être des alliés du gouvernement, notamment dans la lutte contre la corruption et le tribalisme.
Je ne terminerai pas mon adresse sans vous exhorter à nous accompagner dans nos efforts pour le redressement de notre cher et beau pays. Devenez nos alliés dans la lutte contre les antivaleurs, notamment dans la dénonciation du tribalisme, du nepotisme, du trafic d'influence, de la corruption.
Le ministre de la Communication et Médias a quant à lui précisé qu'il est vrai qu'à l'ère du numérique, n'importe qui peut exercer des activités à caractère journalistique et les diffuser sur différentes plateformes de communication que la technologie met à notre disposition, mais que cela n'est pas suffisant pour faire d'une personne un professionnel des médias.
Il est vrai qu'avec son smartphone, n'importe qui est en mesure de filmer un événement, d'en rendre compte, c'est-à-dire de le partager via les différents réseaux sociaux. À partir de cet exploit technologique que permettent les nouvelles technologies, l'illusion des autoproclamés journalistes est grande. Tout le monde peut donc diffuser des messages, des images, y compris des scoops à l'intention du grand public. Mais cela ne confère pour autant pas les statuts de journaliste.
Patrick Muyaya a aussi rendu hommage à quelques personnalités présentes à la cérémonie, en l'occurrence Jolino Makelele et Lambert Mende, qui l'ont précédé à la tête du ministère de la Communication et des Médias.
On reste à Kinshasa, 42 agents temporaires de la division des facilitations au sein de la régie des voies aériennes RVA étaient en sit-in hier mardi devant le ministère des Transports. Ils ont déclaré à Radio Kapi avoir, selon eux, subi une injustice de la part de l'entreprise qui les a remplacés par 101 autres personnes. Cependant, ajoute-t-il, le motif de leur mise à l'écart était la crise financière que l'entreprise serait en train de traverser. On écoute l'un d'eux qui a requis l'anonymat.
Nous sommes les agents temporaires de la RVA, Régie des voies aériennes. Nous avons eu à travailler à l'entreprise pendant 7 ans, 8 ans, voire même 10 ans pour les autres. Mais à notre grande surprise, l'entreprise nous a manifesté son équilibre financier pour l'engagement, disons. Mais nous étions au nombre des 48. Pour l'instant, nous sommes remplacés par 101 personnes. Quelle injustice! Sous prétexte que l'entreprise traverse une crise financière. Nous voulons connaître quelle est la base de tout ça. La semaine passée, nous avons eu à voir le DG. Le DG a essayé de dire ce que lui avait à dire. Nous avons passé au ministère du Travail. Nous avons laissé un moment. Là, nous sommes au ministère des Transports. Nous attendons à voir l'audience avec le ministre. Et que le président s'implique. Si j'avais des agents à remplacer ou à mettre en entreprise, pourquoi pas les mettre ensemble avec nous qui ont eu des temps à l'entreprise? Ça serait mieux si vous avez des enfants, des nièces comme d'habitude, si vous voulez les remplacer en entreprise. Mais gardez ceux qui ont eu à travailler pendant longtemps.
En réaction, le DG de la RVA affirmait que les 48 agents avaient des contrats à durée déterminée qui ont presté avec un contrat renouvelé une fois, comme c'est prévu dans la loi. Ils ont épuisé les renouvellements, c'est une exigence légale, faute de quoi la RVA sera dans l'illégalité. Les 101 personnes sont des journaliers qui prestaient à l'aéroport, conclut le patron de cette entreprise. Une autre série de reportages initiés par Radio Capi, programme de développement des 145 territoires lancé par le président de la République. Aujourd'hui, notre reporter Esther Ndalafina nous fait l'état des lieux des territoires. En effet, la RDC compte 145 territoires répartis dans 26 provinces. Quelques facteurs, dont notamment l'état des routes et l'insécurité, divisent les pays.
Les 145 territoires font de la République démocratique du Congo un pays continent. Cependant, il est difficile de circuler d'un point à un autre dans ce gigantesque pays. C'est 145 000 km de route, dont 87 000 km de dessertes agricoles sont en mauvais état. L'insécurité bat record dans les provinces de l'Est. Plus de 3500 ponts sont en état de délabrement très avancé pour la plupart. À cela s'ajoute le délabrement des infrastructures sanitaires et scolaires. Certains élèves étudient à même les sols. Pas de crèches dans les écoles, pas de fournitures scolaires non plus. Les hôpitaux utilisent les matériels archaïques. Les malades se couchent sur les lits métalliques couverts de nattes. La qualité de l'habitat, les conditions du bien-être et du bien-vivre n'est pas toujours une priorité dans les villages. Malgré la présence de cours d'eau, certaines localités sont dans le noir depuis plusieurs décennies. Pas d'eau potable. Actuellement, plusieurs cas de malnutrition sont enregistrés dans nos villages chez les enfants et chez les adultes à la suite de la consommation d'une alimentation non équilibrée. Certains habitants ont renoncé aux activités agricoles et s'accrochent à l'exploitation minière. Cette situation a engendré la dépravation des mœurs dans les villages.
Actualité internationale.
En Éthiopie, les rebelles tigréens annoncent la reprise des combats en région Afar. Depuis hier matin, nous avons été obligés de prendre des mesures fortes pour neutraliser la menace posée par des forces pro-gouvernementales en Afar, a déclaré ce mardi dans un communiqué le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, quelques semaines après un repli dans leur fief qui avait suscité des espoirs de paix.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Rachidi Malundama du mouvement citoyen Filimbi. Il s'exprime sur les rapports que cette structure et l'Observatoire des dépenses publiques, ODEP, ont récemment publié. Il porte sur la gestion des fonds affectés par l'État à l'hôpital général de référence, ex-Mamayemo. Rachidi Malundama, chargé de comptabilité et finances pour ses contrôles, est interrogé par Philbert Balolagué.
Rachidi Malundama, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est le contenu de ces rapports?
Il nous est arrivé, après avoir lancé plusieurs actions de sensibilisation, de nous intéresser à la gestion des fonds. Parce que, comme vous le savez, une partie de ces fonds fait partie de l'argent du contribuable congolais. Et donc, le constat, il est quelque peu amer, dans la mesure où, déjà, nous n'avons pas eu la facilité d'entrer en contact avec les gestionnaires concernés qui devraient nous fournir d'amples détails. Ça, c'est de un. Et de deux, au regard des éléments en notre possession, notamment les rapports financiers établis par les responsables de Mamayemo, sur l'ensemble des fonds que Mamayemo a perçus, soit plus de 600 000 dollars américains, les rapports envoyés au ministère ne retracent qu'un peu moins de 90 000. Donc de là, on s'est posé mille et une questions, pourquoi Mamayemo n'arrive pas à justifier les fonds à hauteur de 600 000 dollars. Et de là, on est arrivé à comprendre qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont à la base, notamment une cacophonie sur une double nomination des gestions de cet hôpital. D'une part, il y a le gouverneur qui a nommé et de l'autre, il y a le ministre. Et dans la foulée, il y a eu, semble-t-il, des désordres. Et selon les responsables de cet hôpital, c'est que dans ces désordres-là, que certains éléments de la police auraient emporté des pièces.
Qu'est-ce qui a motivé cette recherche que vous avez commencé à faire? Il y a eu des suspicions dès le départ ou bien c'était juste une action citoyenne?
Comme vous le savez, au tout début de cette pandémie, la gestion, elle a été chaotique, dans la mesure où nous avons connu plusieurs morts, soit par absence des bonbonnes à respiration artificielle, soit carrément par une mauvaise prise en charge due au fait qu'il n'y avait pas d'assez bonnes installations. Et donc, de là, on s'est dit, dans notre rôle de citoyen, nous allons nous lancer dans une enquête visant justement à dresser une certaine traçabilité de ces fonds.
Et quand vous avez remarqué toute cette situation, vous avez parlé que l'hôpital Mamayemo n'est pas arrivé à justifier une grande partie de cet argent. Qu'est-ce qui justifie cela?
Je dois vous avouer que l'hôpital n'est pas arriver à être en mesure de nous fournir toutes ces justifications, mais tout simplement disons suivant une certaine logique, parce que comme vous le savez, ces fonds avaient été alloués entre mai et novembre 2020, et l'hôpital général Mamayemo a adressé son rapport en avril 2021 sur les 90 000. Donc nous croyons, suivant toute logique, que les rapports sur les 600 autres 1000, parce qu'ils ont eu à bénéficier des trois financements, donc 90 000, 600 et quelques, 500 et quelques 1000 et puis 3000, les rapports là n'est pas gardé dans leur tiroir, donc ils n'ont pas d'éléments pouvant justifier ces fonds.
À ce stade, pouvons-nous parler d'un détournement ou bien vous espérez qu'il va y avoir des fonds pour justifier ces manques?
En tant que Congolais, on aimerait bien qu'ils puissent justifier ces fonds. Ce n'est pas à notre niveau de déterminer déjà qu'il y a eu détournement.
D'après vos recherches, qu'est-ce que vous avez remarqué?
D'après nos recherches, l'hôpital général n'est pas en mesure de nous fournir des éléments pouvant justifier l'utilisation de plus de 600 000 dollars américains que l'État congolais a alloué pour la prise en charge des cas de Covid.
Vous avez basé votre recherche sur l'hôpital général. Par rapport à d'autres instances, vous n'avez pas d'informations?
Si nous avons d'informations, et d'ailleurs nous sommes en train de travailler sur pratiquement sur tous les hôpitaux de Kinshasa qui ont eu à bénéficier de ces fonds. Seulement, dans notre logique, nous avons préféré commencer par le plus grand hôpital qui est Mamayemo. Mais je pense que dans les jours ou les mois qui suivent, nous aurons, n'est-ce pas, à vous convier pour les rapports que nous aurons à effectuer sur les autres hôpitaux de Kinshasa.
Et dans votre rapport, vous avez sorti une série de recommandations. Quel est le contenu de ces recommandations?
Bon, en fait, pour nous, nous disons que nous avons lancé l'alerte. Et comme vous le savez, il ne nous revient pas d'établir des faits ou d'arriver à conclure. Mais nous avons remarqué qu'il n'y a pas une bonne gestion. Et donc, il revient à ces instances qui s'en saisissent afin d'établir des responsabilités si des gens devraient justement être poursuivis. Parce qu'en fait, on ne peut pas gérer les fonds publics de cette manière-là, où il n'y a pas de traçabilité, notamment sur la passation des marchés publics, où il n'y a pas de traçabilité sur des gens qui ont bénéficié de ces primes en termes de listes d'émargement, où il n'y a pas de traçabilité sur des factures. Pour nous, nous pensons qu'il revient à ces instances d'aller au fond. Nous n'avons fait qu'un travail citoyen. Nous considérons que nous avons lancé l'alerte.
Rachid Dimalunda, ma pape, je vous remercie.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.
Demain jeudi, vous suivrez également l'invité du journal, la réaction du médecin directeur de l'hôpital général de référence Ex-Mamayemo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.